RTL. Spéciale votation.
Tout de suite, on ouvre le débat avec Sonia Bernauer-Milla. Bonjour.
Bonjour. La population neuchâteloise va-t-elle accepter de tendre la main aux communes frontalières? C'est de manière très résumée l'enjeu du report de l'harmonisation de l'impôt des frontaliers soumis à votation le 24 septembre. Sans ce report, les 5 communes frontalières que sont la Chaux-de-Fonds, le Locle, les Brenets, Val-de-Travers et la Côte-aux-Fées verront leurs finances plombées, alors qu'elles traversent déjà une période difficile marquée par une conjoncture morose et une chute des recettes fiscales des personnes morales. Les Verrières soutiennent également ce report par solidarité envers les communes industrielles. De l'autre côté, 30 communes attendent l'harmonisation de cet impôt depuis 2014. L'entrée en vigueur de cette mesure a en effet été repoussée à plusieurs reprises depuis que le Grand Conseil neuchâtelois a accepté en 2013 une nouvelle clé de répartition de tous les impôts entre l'État et les communes, mais aussi entre les communes elles-mêmes. Et pour débattre de cette question, nous accueillons dans notre studio chaudefonnier Sylvia Morel, conseillère communale en charge des finances à la Chaux-de-Fonds et membre du comité soutenant le report, ainsi que dans notre studio de Marin, Olivier Osner, ancien député PLR et co-président du comité référendaire. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Alors Sylvia Morel, pourquoi est-ce que les communes frontalières ont besoin que cette harmonisation soit reportée encore une fois ?
Eh bien écoutez, ce report est indispensable parce que finalement, depuis que les réformes ont débuté, 30 communes ont déjà reçu 19,7 millions, alors que ces mêmes communes, les Brenets, la Chaux-de-Fonds et le Locle, ont perdu 11 millions. À cela viendrait encore s'ajouter la bascule des frontaliers. Ces mêmes 30 communes toucheraient encore 3 millions de plus, alors que ces mêmes communes verraient encore leurs finances détériorées de 5,6 millions. Il s'agit en fait de 8585 frontaliers, donc 71,5% des frontaliers qui travaillent dans le Haut et qui verraient ces recettes attribuées à d'autres régions du canton. Donc c'est vraiment une situation extrêmement difficile. Les réformes qui ont été prévues au départ étaient des réformes, disons, budgétées et estimées sur une haute conjoncture. Et finalement, cette harmonisation a des effets tout à fait inattendus, ce qui fait qu'on demande simplement d'arrêter les dégâts, de stopper un moment, et on réétudie l'ensemble de ces réformes, y compris avec la péréquation des charges. Et à ce moment-là seulement, on pourra trouver une solution équitable pour tout le canton.
Si on regarde les montants qui sont en jeu, vraiment juste pour cette votation-là, ce n'est pas les mêmes quand même du côté ou de l'autre. Les sommes à perdre, effectivement, pour chaque commune frontalière sont globalement plus importantes que les montants à gagner pour chacune des autres communes. Alors est-ce que finalement, celles-ci ne peuvent pas se passer de cet argent encore quelques années, comme elles l'ont fait depuis 2014, Olivier Osner ?
Écoutez, je ne verrais pas pourquoi les 30 communes qui sont prétéritées par un nouveau report auraient moins besoin d'argent que les 5 autres communes qui sont, c'est vrai, peut-être plus touché actuellement par rapport, je dirais, à la conjoncture, mais une loi qui a été votée en 2013, où en fait c'était le consensus et puis la cohésion qui étaient les maîtres mots, doivent devenir réalité maintenant. En 2017, on ne peut pas toujours mettre en place des réformes, il y a toujours quelques perdants, quelques gagnants, et en fait il y a quand même un autre dossier qui régule l'ensemble des revenus dans ce canton, c'est la péréquation financière intercommunale, où là on ne peut pas dire que les communes, je dirais, industrialisés du haut du canton sont prétérités. La Chaux-de-Fonds a reçu plus de 240 millions en 15 ans. Donc, faut pas dire qu'il n'y a pas de solidarité dans ce canton. Il est vrai que la conjoncture n'aide pas. Les communes, je dirais, la ville de la Chaux-de-Fonds particulièrement et celle du Locle souffrent plus particulièrement de leur industrialisation qui a subi un certain frein. Mais quand on met en place des projets de loi, d'ailleurs, où Mme Morel l'a également voté, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours différer. D'ailleurs, nous avions fait une autre proposition en commission afin de lisser ça encore sur 3 ans supplémentaires, alors que c'était déjà prévu que sur 2 ans. Au bout d'un moment, soit une loi elle est mauvaise et puis il faut la retirer, ou bien soit on la met en œuvre.
Pour la Chaux-de-Fonds, quelles conséquences si l'harmonisation entre en vigueur dès cette année, parce qu'on le sait, si le report n'est pas accepté, ça entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier, Sylvia Morel.
Oui, bien pour la Chaux-de-Fonds, ça représente 2,2 millions de moins. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que cette réforme, elle est probablement pas correcte. On a fait des simulations, mais de mauvaises simulations. On n'est pas allé jusqu'à l'impact final sur les communes. On a voté passablement de déductions pour les enfants, pour le prêt et le parascolaire. Et on a fait des estimations globales sans aller jusqu'au niveau des communes, et les conséquences sur les communes, spécialement les villes, sont énormes. Donc cette réforme n'a pas été tout à fait vue correctement. C'est vrai que moi aussi je l'ai votée, mais finalement on s'aperçoit que le service des contributions n'avait pas les outils pour faire des simulations correctes, et aujourd'hui on s'aperçoit que les écarts sont énormes. Perdre déjà 11 millions aujourd'hui et encore on rajoute 5 millions, c'est bien que ça ne joue pas. Et ce que j'aimerais surtout dire, c'est que les communes qui ne sont pas contentes et qui estiment qu'elles devraient obtenir cette bascule sont pratiquement toutes des communes qui ont des coefficients fiscaux nettement plus bas. Si vous prenez la ville de Neuchâtel, c'est à 69. Si vous prenez Saint-Blaise, c'est à 70. Le Landron, 70. Courtaillot, 70. Millevigne, 67. Le Val-de-Ruz, je crois que c'est 70. Donc, ce sont toutes des communes qui sont autour des 70, alors que la plupart des communes du canton se situent entre 75 et 80. Donc, j'entends, on est en train de prendre encore des impôts à des communes qui payent déjà nettement plus d'impôts que d'autres personnes dans le canton. Donc on doit arrêter. C'est vrai qu'il y a des choses qui ne jouent pas également dans la péréquation, nous en sommes conscients, mais on aimerait absolument qu'on stoppe cette histoire un moment, on réfléchit, on fait des simulations correctes et ensuite on repart. Et peut-être qu'on acceptera la bascule des frontaliers, mais en acceptant d'autres réformes en même temps. Mais celle-ci, c'est vraiment celle qui vient en trop au mauvais moment.
Alors je vous laisserai réagir sur ces questions d'impôts, puis vous me dire aussi, monsieur Olivier Osner, les conséquences qu'il y aurait pour les communes non frontalières si le report est accepté.
Ben écoutez, à entendre madame Sylvia Morel, il faudrait que l'impôt soit le plus élevé possible dans tout le canton, alors que nous sommes persuadés que nous sommes mis en compétition avec pas seulement les communes à l'interne du canton, mais également avec tous les cantons qui nous entourent. Donc nous devons rester attractifs, et bien en fait tous les budgets communaux, en tout cas sur le littoral, ont été calculés avec cette bascule et cette introduction. Et puis on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un temps d'adaptation. Après 3 ans de non-introduction de cette harmonisation, on ne peut pas dire que les communes ne savaient pas. On savait au départ qu'il y avait une neutralité des coûts entre le canton et les communes, mais on savait qu'il y avait des différences entre les communes entre elles, comme il y a eu à l'époque lorsqu'on a introduit la nouvelle péréquation financière intercommunale. Et là, il n'y a pas tellement eu des délais d'adaptation. En 2000, ça a été introduit extrêmement brutalement. Et nos communes, il faut aussi le dire, c'est paradoxal. Les communes qui ont les coefficients fiscaux les plus bas, c'est celles qui n'arrivent pas à investir. L'achat de fonds a un taux d'investissement qui est nettement supérieur aux communes du littoral. Donc il faut savoir ce qu'on fait avec notre argent. Et puis, il y a quand même des très fortes disparités. On ne nie pas que les revenus ne sont pas les mêmes par commune, mais quand on sait que jusqu'à fin 2016, lorsqu'on avait 55 ans à la Chaux-de-Fonds, on travaillait que 36 heures qu'on était fonctionnaire, on savait qu'il y avait 8 à 9 semaines de vacances, c'est toutes des différences qui font que c'est des coûts supplémentaires, et c'est normal que la Chaux-de-Fonds se retrouve avec des difficultés, alors que le LOC, elle fait des efforts qui ont été très visibles. Ils étaient d'abord, bénéficiaires de la péréquation, ils sont devenus contributeurs. La Chaux-de-Fonds de Madame Morel, c'est la seule commune qui demande toujours plus d'argent depuis 2001.
Alors, je vous laisserai peut-être réagir, Sylvia Morel, si vous souhaitez.
Je ne crois pas qu'on demande de l'argent, on demande simplement de garder ce que nous possédons. Il ne faut quand même pas lire des choses pareilles. C'est vrai que les fonctionnaires avaient un statut privilégié, ce n'est plus le cas, les choses sont remises en question aujourd'hui. Mais j'aimerais bien aussi savoir comment on règle nos problèmes quand on nous prend 9 millions. 9 millions, ce n'est pas des petites sommes, et on ne peut pas comparer une ville avec des villages. La ville de la Chaux-de-Fonds a quand même des missions aussi quand et qui ne sont pas reconnus, notamment le MIH qui est toujours à la charge de la ville, alors que le Latenium est cantonal. Donc vous voyez, il y a plein de problèmes qui doivent être réglés, et quand on est dans une période de basse conjoncture et en plus qu'on vient sans arrêt remettre en question la fiscalité, ça crée d'énormes problèmes dans une ville, dans une grande ville. Forcément que vous avez davantage de personnes qui utilisent le prêt et le parascolaire, avec des gens qui n'ont pas forcément des revenus très élevés. Et bien la différence entre ce que payent les parents et ce que donne l'État, c'est pour la ville. Donc pour nous, le prêt, le parascolaire, ça représente 8,5 millions. Donc ce sont des sommes qui sont venues aussi se mettre en plus de nos pertes fiscales. Donc ça ne devient vraiment plus supportable. On a vraiment besoin d'un temps mort. On réfléchit, on revoit dans des tas de domaines, pas seulement la fiscalité, pour qu'on retrouve un équilibre dans le canton. Et je ne crois pas qu'on doit se faire de la concurrence fiscale entre communes du canton de Neuchâtel. Qu'on se préoccupe de la fiscalité en dehors de notre canton, je comprends, mais je ne crois pas que ce soit vraiment sain de faire de la concurrence entre les communes dans ce canton.
Alors, on peut quand même comprendre la gêne du comité référendaire sur un point. Il n'y a pas de délai clair à ce nouveau report. Olivier Osner, qu'est-ce que vous avez à en dire ?
Mais écoutez, à entendre, je dirais, nos opposants, enfin ceux qui sont pour un nouveau report, et suite aux discussions qu'il y a eu au Grand Conseil, il faut bien admettre que les gens ne sont pas du tout pressés d'harmoniser et de finaliser ce dossier. Il y a tout le temps quelque chose qui gêne à un moment. Après, on dit qu'il faut revoir la péréquation des charges, ça se fera à un même moment. Donc, au bout d'un moment, on n'est plus avec des systèmes qui doivent passer les conjonctures et les époques. On en est à regarder une situation et à trouver des solutions pour certains problèmes particuliers en pénalisant un ensemble. Et ça devient plus du tout jouable, ce genre de politique où en fait on essaye d'avoir des pseudo-majorités et ensuite on se rend compte que un dossier ne passe pas une mauvaise conjoncture, et puis en fait, on doit tout revoir. On n'arrive pas à avancer dans ce canton. On fait un pas en 2013, et on en a fait deux en arrière en 2016 et 2017. Donc, c'est pas comme ça qu'on va redresser ce canton.
Finalement, oui, mais Sylvain Morel, les communes frontalières ont déjà eu 3 ans pour s'adapter. Rien ne dit que la conjoncture sera meilleure dans quelques temps. Est-ce qu'il ne faut pas effectivement maintenant appliquer ce qui a été décidé au Grand Conseil en 2013 et quitte à revenir avec un nouveau paquet ? Ça sera le cas de toute façon du côté du Grand Conseil de reprendre ce dossier-là ?
Non, écoutez, quand vous vous apercevez que la réforme a des effets qui ne sont tout à fait, qui sont inattendus, on doit arrêter et réfléchir. C'est pas possible de continuer comme ça. Maintenant, moi, je n'ai pas du tout envie de prolonger ces problèmes-là. Ça appartient au Conseil d'État, M. Courte, qui doit se dépêcher de mettre tout le monde au travail, de trouver des solutions. Et pour moi, tous ces problèmes-là doivent être réglés dans un délai maximum de 2 ans. Personne n'a intérêt à ce que ça dure, parce que tout le monde se renvoie la balle continuellement. Il faut qu'on règle une fois l'ensemble de ces problèmes, il faut aller très vite, il faut qu'on trouve des solutions pour que tout le monde s'y retrouve. Parce que c'est vrai que dans tous les domaines, il y a des injustices, on met une fois tout à plat, on revoit le système dans sa globalité et ainsi on trouvera vraiment une unité dans ce canton.
Mais des solutions correctrices avaient déjà été proposées par le Conseil d'État lors du dernier vote du Grand Conseil pour justement un peu limiter ces distensions. Ouais. Ça a été refusé par le Grand Conseil.
Oui, mais c'était aussi boiteux parce que tout à coup, on mélange des choses, on arrange un petit peu la politique de répartition des personnes morales, où tout à coup, on disait « Ah oui, c'est vrai, c'était quand même un peu faux d'attribuer moitié habitant, moitié emploi. On doit mettre le point emploi plus fort. » Et ce sont des petites choses comme ça qu'on a essayé d'ajuster, mais à la va-vite, sans voir l'ensemble, et ce qui fait que ça n'a pas passé. On doit une fois prendre le problème dans son entier.
Et pour vous, Olivier Osner, est-ce que ce compromis n'était pas satisfaisant non plus ?
Non, il n'était pas du tout satisfaisant parce qu'en fait, la commission péréquation que j'ai présidée pendant quelques années, nous avions remis un rapport au Conseil d'État en 2013 où en fait, le volet de la péréquation des ressources a été revu en 2014 et il n'y avait pas eu de grands problèmes au Grand Conseil. C'était une très très large majorité. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que la péréquation des charges qui était souhaité en même temps, n'a pas été faite. C'est ce qui crée quelques problèmes là-dessus. Mais en fait, aujourd'hui, on prend un petit peu en otage l'impôt frontalier parce que la conjoncture va moins bien puis que l'impôt des personnes morales fléchit. Mais quand tout allait bien puis que les personnes morales étaient très hautes, comme en 2010, 11 et 12, jamais les communes, je dirais, fortement industrialisées sont venues dire est-ce qu'on fait quelques correctifs parce qu'on gagne trop d'argent. Hein. On a vu ce que ça a fait pour le Locle, par exemple, qui a eu beaucoup de revenus, personne morale, tant mieux. Et puis, ce qu'il faut quand même souligner, c'est que depuis 2000, où il y avait un comité qui était pour corriger la péréquation qui avait été mise en place, c'était mise en œuvre. On a mis 15 ans pour corriger, je dirais, l'indice des ressources qui ne prenait pas en compte l'impôt frontalier puis l'impôt à la source dans le calcul de la péréquation. Et c'est des millions et des millions qui ont été payés par les communes contributrices aux communes bénéficiaires alors qu'il n'y avait pas lieu de le faire.
On le sent bien, hein, c'est un vaste chantier. Je vous propose d'opérer une courte pause avant de revenir à ces questions.
Spéciale votation.
On revient donc à ce débat sur le report de l'harmonisation de l'impôt des frontaliers en compagnie de Sylvia Morel et d'Olivier Osner. Alors pour une fois, on ne peut pas réduire ce débat à un conflit au bas, c'est tant mieux j'ai envie de dire. Le Val de Travers, la Côte-aux-Fées, les Verrières sont aussi affectés. Malgré tout, la question alimente les conflits entre régions. Pour vous Sylvia Morel, la cohésion cantonale, elle passe par un report. Pourquoi ?
Oui, je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait de telles pertes dans certaines communes, 5,6 millions, qu'on ne peut juste pas poursuivre alors qu'on en a déjà perdu 11. Donc si on veut que tout le canton vive bien, il faut aussi que les villes puissent vivre correctement. Et si une ville va très mal ou plusieurs villes vont très mal, forcément que ça va se ressentir sur tout le canton. Donc on a vraiment besoin de se retrouver tous ensemble et de remettre tout cela sur le métier. Mais c'est vrai, je partage avec M. Houtner, ces réformes, elles durent beaucoup trop longtemps. On doit être beaucoup plus rapide. Le Conseil d'État doit agir beaucoup plus vite. Puis en ce moment, on sait que le chef du département des finances n'a toujours pas réussi à remplacer son chef des finances. Donc ça n'aide pas non plus dans les réformes. Mais c'est vraiment un problème du Conseil d'État. Et je crois que toutes les communes sont prêtes à travailler vite pour qu'on trouve des solutions. Parce que tout le monde est insatisfait. Nous, on n'a pas non plus tout le temps envie qu'on nous reproche, que l'on reçoit de l'argent que l'on ne devrait pas avoir. Il faut qu'on mette une fois toutes les choses à plat, qu'on reconnaisse le travail de chacun et qu'on trouve un équilibre dans ce canton.
Olivier Osner, vous voyez les choses autrement. Pour vous, c'est en menant cette harmonisation à son terme qu'on apaisera les tensions entre régions. De quelle manière ?
Écoutez, cohésion et consensus, je ne vois pas pourquoi ça ne devrait pas continuer en 2017. Et en fait, reporter des décisions à perpétuité sans en voir le bout, ce n'est pas une façon de diriger un canton, voire des communes. Je crois que les communes ont besoin de stabilité, elles ont besoin d'un système sur lequel elles peuvent se reposer, établir des budgets, faire des plans d'investissement et travailler. Actuellement, avec ce système qu'on va année après année, on ne sait pas ce qu'on en fait, les communes n'ont pas de visibilité, ce n'est pas du tout satisfaisant. Ensuite, je crois qu'on ne reproche pas à certaines villes ou communes de recevoir des montants. On peut certainement leur reprocher ce qu'elles en font de ces montants, mais qu'elles les perçoivent, ben, c'est une loi qui a été mise en place et c'est des montants qui sont dus. Mais par contre, on peut quand même se poser la question de ce que font certaines communes avec l'argent qui est en fait un bien commun. Et puis je crois que tout le monde a intérêt à ce que ce canton se redresse. Et puis ce n'est pas ce genre de dossier qui fait que lorsqu'il y a 31 communes qui sont prétéritées par rapport à 5 autres, je crois que la proportionnalité d'une mesure ne correspond pas à la volonté populaire.
On l'a vu, pour le moment le PLR est opposé à ce report. Sylvia Morel, qu'est-ce qui vous pousse à aller, vous, à l'encontre de la position officielle de votre parti ? Là, c'est clairement les intérêts chaudes-fourniers qui priment ?
Non, pas du tout. C'est quand même aussi la cohésion cantonale. Mais comment on peut défendre que c'est insupportable de perdre 3 millions alors que 3 à 30 communes, alors que 3 communes en perdent 5,6 millions. Et puis, quand même, ces 30 communes ont déjà reçu 19,7 millions. Donc, j'entends, elles ne reçoivent pas rien du tout. Ce qui a été fait est fait et on ne le remet pas en question. Simplement, l'ennui dans cette réforme, c'est que les frontaliers, c'était la phase finale. Et quand on voit que le début de cette transition se passe mal, on demande qu'elle s'arrête, mais ça pourrait... Le sujet est malheureusement les frontaliers, qui est un sujet plutôt frontalier, qui travaille dans le haut, mais c'est l'ensemble de cette harmonisation qui joue pas. Et malheureusement, c'est ce sujet-là qui est en phase finale et qu'on doit stopper parce qu'il a quand même un impact extrêmement lourd sur les finances. Donc 5,6 millions, c'est 2,4 millions au Locq, 2,2 à la Chaux-de-Fonds, au Val de Travers, c'est 480 000, au Brenay, 479 000 et à la Côte-aux-Fées, 100 000. Donc ce sont des montants extrêmement importants. Il y a aussi des communes du bas qui sont touchées, notamment La Tène et Corneau, qui ont déjà donné, perdu de l'argent, déjà à peu près 400 000 francs chacune sur ce qui s'est déjà passé, et qui perdent encore une fois sur les frontaliers. Donc il n'y a pas que les communes du haut, il y a aussi quelques communes du bas qui ne sont pas dans une situation agréable.
Alors, Olivier Osner, je vous vois réagir. Et puis aussi sur cette question du PLR, pour conclure.
Mais écoutez, le PLR, en fait, il a pris position en Assemblée Générale sur un vote qui était extrêmement clair. Donc, il y a aussi une volonté de cohésion dans ce canton au PLR, ce qui a d'ailleurs primé sur les dernières colonnes des tableaux qui sont présentés. Mais moi, je ne vais pas donner les chiffres de toutes les communes, comme l'a fait Mme Morel pour son côté, mais pourquoi tout d'un coup l'Athènes aurait moins besoin de 346 000 francs que la Chaux-de-Fonds de 2 156 000. Qu'est-ce qui ferait que, pourquoi l'Athènes aurait plus les moyens de faire ça? Qu'est-ce qui ferait que, par exemple, le Landron devrait se priver de 472 000 francs par rapport aux Brenais qui, eux, recevraient 478 000? Je crois qu'on ne peut pas discuter de cette manière-là. Ce projet-là fait des flux financiers qui étaient connus. Si on se reporte au rapport 2013, les flux financiers étaient connus. Ils n'étaient peut-être pas aussi importants, mais on ne peut pas dire qu'ils ont doublé. Donc c'était connu. Simplement, il y a des communes qui n'ont pas pris les dispositions pour s'adapter.
Et c'est sur ces mots qu'on devra malheureusement déjà terminer ce débat. Olivier Osner, Sylvia Morel, merci d'avoir été avec nous pour débattre de ce report de l'harmonisation de l'impôt des frontaliers, un sujet sur lequel le peuple neuchâtelois se prononce le 24 septembre. Précisons que voter oui signifie accepter le report de l'harmonisation et qu'opter pour le non, c'est soutenir l'entrée en vigueur de cette harmonisation avec effet rétroactif au 1er janvier de cette année. Demain, Sarah Massy vous proposera un débat sur le projet de nouvel hôtel judiciaire prévu à la Chaux-de-Fonds en compagnie des avocats Marc Turcher et Jean-Marie Rottisberger. Belle journée.
Merci.
Merci à toi.